France Info.
En compagnie ce soir de Guillaume Gral et du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotrès du Cevipof. On parle donc de ce salaire décent, c'est le terme du patron de Michelin qui a une idée très précise de ce qu'est un salaire décent pour Florent Ménégaud. Ça signifie permettre à une famille de deux adultes plus deux enfants de se loger, de se nourrir, de partir en vacances et même de mettre un peu d'argent de côté. Et ce sera désormais la règle pour les 132 000 salariés dans le monde, 17 000 en France. On écoute Florent Ménégaud qui était l'invité du 17-20 France Info.
L'objectif, c'est d'avoir des personnes qui soient totalement engagées dans ce qu'elles font et donc qu'elles aient un niveau de salaire qui leur permette d'avoir le confort mental de pouvoir se projeter dans le projet de l'entreprise. C'est ça l'objectif le plus profond. Nous nous sommes donné 2 ans et au 1er janvier 2024, tous les salariés de Michelin, tous, partout dans le monde, sont au minimum à ce niveau de salaire décent.
Voilà, salaire décent. En clair, au lieu des 21 000 annuels bruts, qui sont le SMIC classique, eux, ils généralisent autour de 40 000 bruts pour ceux qui vivent à Paris, 25 000 à Clermont-Ferrand. Ça doit faire rêver quand même pas mal de gens, Guillaume Gralet.
Oui, et puis surtout, on s'intéresse au monde entier. On voit qu'on s'intéresse à un groupe mondial, hein, plus de 130 000 salariés. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est presque salvateur après la semaine qu'on a eu, les débats sans fin sur le salaire de Carlos Tavares, qui effectivement a fait beaucoup de choses chez Stellantis, mais qu'on avait bien du mal à expliquer.
Là, on a l'impression 36 millions et demi d'euros.
Voilà.
De rémunération globale, hein. On n'est pas que sur le salaire.
Exactement. Alors, c'est-à-dire que, voilà, on compare toujours aux footballeurs, mais on a un peu du mal à justifier ce salaire. Là, on a l'impression d'avoir un groupe responsable, extrêmement citoyen. Et puis, surtout plus que le salaire, en regardant un tout petit peu, en parlant avec les personnes de Michelin, on s'aperçoit surtout qu'il y a un plan d'accompagnement, de formation. Et j'ai envie de dire que c'est presque aussi, voire plus important. Tout à l'heure, on parlait, alors c'est ma petite marotte, mais d'intelligence artificielle qui bouleverse de plus en plus de métiers, qui fait énormément peur. Et en fait, ce plan de formation global, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les salariés.
Alors attendez, le rapport avec l'intelligence artificielle?
Eh ben, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle bouleverse tous les métiers. On voit, cette semaine, par exemple, il y a eu Boston Dynamics, le créateur américain, vous savez, des robots chiens qui font peur à tout le monde, eh bien, a annoncé un robot humanoïde. Les robots humanoïdes, ils ont été aussi lancés par Sam Altman de OpenAI ou encore Elon Musk. Et on voit certains sont déployés dans des usines BMW, un autre fabricant automobile, un fabricant du secteur aux États-Unis. Ces robots humanoïdes vont prendre des métiers de plus en plus de salariés. On va multiplier ces robots qui sont très agiles, avec certains plus de mémoire, plus d'intelligence. Tout ça, ça fait peur dans les entreprises industrielles. Et avoir des plans de formation qui vont permettre, eh bien, de garder le contrôle sur la machine, je trouve ça super intéressant.
Claire Planchard, alors Michelin a toujours été une entreprise, j'ai envie de dire, un peu paternaliste et particulière, on va dire.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu je ne sais pas qu'il renoue avec ce paternalisme social des fondateurs, mais quand on va visiter, je ne sais pas, vous êtes déjà allé dans les anciennes usines Michelin, il y a un musée. Et en fait, et on voit effectivement qu'il y avait des dispensaires, des écoles, des parcs de maisons. En fait, il y avait cette idée que pour fidéliser ces ouvriers qui formaient, ces salariés, il fallait aussi pouvoir être un employeur social. Et là, c'est vrai qu'on parle de décence. Alors, c'est un terme qui est pas économique, mais en fait, le terme anglais, c'est living wage. Donc, c'est un salaire qui permet de vivre correctement. Donc, comme vous le disiez, l'idée, c'est de l'adapter, en fait, à des situations dans différents pays. En fait, finalement, ça concernait assez peu de salariés, notamment en France, hein, qui étaient sous ce seuil. Mais c'est de se dire, au moment où on dit qu'on a besoin de pouvoir vivre de son travail, c'est-à-dire c'est pas seulement la force publique, c'est-à-dire qu'il doit baisser les loyers, encadrer les loyers ou lutter contre l'inflation, mais que les employeurs ont aussi un devoir de donner un salaire qui permet dans un pays de faire vivre une famille avec des enfants et d'épargner un petit peu pour faire face à des coups durs. Enfin voilà, c'est une définition assez complexe. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que cette notion qui a été définie par l'ONU il y a un paquet d'années avait été très difficile à mettre en œuvre, et qu'il y a une ONG, donc Fair Wage, qui a accompagné Michelin pour chiffrer ce salaire, parce qu'en fait c'est pas les premiers, hein. Il y a aussi Danone, il y a aussi L'Oréal qui a voulu mettre en place ces mesures d'accompagnement social. Donc souvent cette volonté d'accompagner les salariés, c'était plus de la protection sociale, mais un salaire, définir quel était ce salaire, ça demande un travail très très précis, puisqu'on a vu les écarts entre ce que ça peut être dans des pays du Sud où il y a des revenus bien plus faibles. Et donc voilà, c'est de dimensionner ça, de le mettre en musique en 2 ans, c'est quand même très 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 rapide. Et effectivement, je pense que pour Michelin, qui a eu des difficultés sociales, mais qui a aussi des difficultés à recruter, hein, avec un turnover qui a fortement augmenté.
Ça, c'est un élément déterminant.
Exactement, c'est une façon de fidéliser, puisque notamment ce que je lisais, c'est que leur plan d'accompagnement, notamment en cas de décès d'un salarié pour la famille survivante, ou d'accompagnement des enfants jusqu'à leur étude supérieure, c'est pour n'importe quelle que soit la longueur, enfin comme on dit, excusez-moi, la période de travail dans l'entreprise, ce sera un droit acquis. Je trouve que c'est, enfin voilà, c'est vraiment une volonté de dire venez chez nous et vous pourrez pour vos jours vieux,
oui,
voilà,
ouais,
voilà,
ouais.
Avoir, voilà, c'est quand même fort.
Le confort mental, c'est l'expression m'a marqué, moi, Florent Ménégo dit, ça leur donne le confort mental, Bruno Cotteresse, pour adhérer complètement au projet de l'entreprise.
Ouais, il a tout compris, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, cette dimension de confort mental, de bien-être, le sentiment de se sentir bien, c'est capital. Au fond, c'est la mère de toutes les batailles, hein, dans un pays qui est tellement miné par le sentiment de crainte de l'avenir, de défiance dans les autres, d'un profondément anxiogène. C'est absolument fondamental. C'est très important parce que nous, quand on regarde ce que les Françaises, les Français disent dans les enquêtes, les grosses enquêtes qu'on réalise à Sciences Po, ben, on voit d'abord qu'il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose à un moment donné. Les générations des anciens disent aujourd'hui, beaucoup d'actifs, ils pouvaient faire tout le projet de vie entier dans une boîte. Ils pouvaient commencer à un niveau qui était un niveau d'ouvrier et progressivement gravir les échelons. Et c'était un projet, on faisait rentrer sa famille dans la même boîte. Effectivement, c'était ce projet de ces entreprises qui faisaient... Alors, effectivement, il y avait une dimension de paternalisme, évidemment, d'un capitalisme à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'était des entreprises qui avaient une forme d'adéquation aussi avec une commune, qui étaient des acteurs centraux d'un marché de l'emploi local. On pouvait gravir les échelons, effectivement, de bénéficier d'un accompagnement. Et ce qui est très intéressant.
Dans notre siècle, hein, tout ça.
Voilà. Mais ce qui est, voilà, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, quand on regarde ce que disent les personnes qu'on interroge, on voit qu'il y a un sentiment, effectivement, de plus pouvoir vivre dignement de son salaire. C'est-à-dire les gens ont le sentiment qu'ils ont coché toutes les cases. On leur a dit, tu travailles bien à l'école, tu vas avoir un bel avenir. On leur dit, t'es un bon citoyen, tout va bien se passer. Et puis les gens disent, j'ai travaillé à l'école, je suis un bon citoyen. Et puis à un moment donné, tout est bloqué. La progression dans l'échelle des rémunérations est rapidement bloquée. On a le sentiment qu'il n'y a plus de possibilités à partir d'un certain âge. Donc voilà, ce sont des enjeux très, très, très importants pour redonner de la confiance et redonner des perspectives positives à un pays qui en manque terriblement, terriblement.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bon.
On parle de salaire décent avec Bruno Cotteresse du CVPOF, Claire Planchard du groupe EBRA, Guillaume Grallet du Point. Alors, est-ce transposable à toutes les entreprises que fait Michelin ? Pas convaincu, Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc. Écoutez, il était sur France Info ce matin.
Je pense pas qu'on puisse généraliser parce qu'il parle que de salaire, il parle pas de dividendes, il parle pas du reste. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'effets de présentation.
Vous avez la dent dure déjà.
Dans la réponse. Si on part de sujets ponctuels, on a des réponses ponctuelles, ça fait pas la justice sociale, ça fait pas la vision globale.
Voilà, coup de com', il dit Michel-Édouard Leclerc, qui s'y connaît en fait.
Il est pas mauvais dans ce domaine-là, c'est sûr. Là où peut-être il soulève un point intéressant, c'est que si c'était un projet, on va dire si c'était une question à poser sur l'ensemble de la société française, c'est vrai que c'est plus exactement le même débat à ce moment-là. Voilà, si on devait dire, mais au fond, pourquoi dans notre société, seuls ceux qui travaillent chez Michelin vont pouvoir avoir droit à ça, que ça crée un sentiment que selon le secteur où on est, selon l'entreprise où on n'est pas traité de la même manière et que ça devienne une perspective sur laquelle il faudrait sans doute réfléchir au niveau de l'ensemble de la société. C'est vrai que ça, c'est un changement de braquet et c'est plus du tout le même sujet.
Sur des groupes de taille équivalente, vous citiez tout à l'heure Claire Planchard, quelques exemples où des réflexions ont été menées. À ce stade, ça n'a abouti nulle part.
Mais c'est surtout que c'est au niveau mondial. Enfin, encore une fois, c'est la proportion de salariés français qui n'avaient pas ce salaire entre guillemets décent était quand même vraiment minime. En fait, c'est surtout pour des pays où
95% des salariés monde chez Michelin, ils sont déjà.
Donc en fait, ce que je disais c'est tout à l'heure, c'est qu'en fait, effectivement, il parle de justice sociale, mais dans ce cas-là, évidemment, le débat sur la smicardisation, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment par le Premier ministre qui en avait fait un de ses chevals de bataille. L'idée, c'est que aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, le SMIC est dans le seul salaire qui est indexé sur l'inflation. Il a énormément progressé, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent rattrapés. En fait, donc on a beaucoup de gens qui étaient embauchés légèrement au-dessus du SMIC, et puis ils n'ont pas eu d'augmentation, et aujourd'hui, ils ont le sentiment de plafonner, niveau, ouais. Ils n'ont pas le sentiment de... Et effectivement, l'inflation aujourd'hui est une véritable problématique. On en a énormément parlé cette année pour se loger, pour manger, pour se chauffer. Enfin voilà, c'est un vrai vrai sujet. Donc évidemment que ça peut pas se substituer à la politique publique. Enfin voilà, il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient prises. On parlait d'encadrer les loyers. Enfin, on voit l'inflation quand on entend 40 000 euros à Paris. Pourquoi ? Parce que le logement à Paris a atteint des sommets. Enfin, région parisienne, des sommets. Mais c'est évidemment pas du ressort de l'entreprise, mais que certaines entreprises aient un discours différent, en fait, se posent la question du bien-être de leurs salariés, ne soient pas que dans une logique de compression des coûts, de se dire qu'en fait, on a aussi socialement à gagner à ce que les gens puissent vivre correctement. Voilà, sans que on soit sur des salaires délirants, je trouve ça intéressant parce que ça vient changer un discours qui est un peu ambiant, et qui va aller que dans un sens, en fait.
Ça va être compliqué pour certains chefs d'entreprise d'expliquer pourquoi c'est ce qui est possible chez Michelin n'est pas chez eux.
Oui, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est vraiment une mesure qui va dans le bon sens. Et effectivement, peut-être pour raccorder avec le débat qu'on a eu au début de l'émission, on aimerait avoir ce type de coup de pouce pour les professeurs français, les instituteurs, qui sont quand même beaucoup moins bien payés que dans le reste de l'Europe. Et peut-être, ça amoindrirait un tout petit peu le malaise, mais en tout cas, de l'éducation. Mais en tout cas, pour revenir à cette initiative, moi je la trouve vraiment vertueuse, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe, les mesures qui sont annoncées, elles concernent aussi bien les salariés brésiliens, les salariés chinois de cette belle réussite, c'est-à-dire qu'on considère le facteur humain comme une ressource et pas uniquement comme un coût.
Les PME, clairement, c'est beaucoup plus complexe, en revanche, on est d'accord, Bruno Cotterêts, ou est-ce que c'est...
Oui, sans aucun doute, c'est vrai que la puissance d'un groupe comme Michelin, c'est un tout autre univers. Là où ça peut vraiment être intéressant, c'est l'effet de ricochet, effectivement, ce que disait Claire Planchard, c'est l'effet de ricochet que ça peut avoir sur les débats d'une politique publique plus audacieuse sur l'augmentation de salaire en France. Une politique s'appliquant à tous les secteurs. C'est vrai qu'il y a ce problème en France. Beaucoup de Françaises, ne comprennent pas, au fond, pourquoi ils vivent dans un pays riche et ils galèrent. Donc c'est quand même une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se posent, avec un sentiment qu'à un moment donné, où l'ascenseur social n'a pas bien fonctionné, où la rémunération des efforts n'est pas correctement faite. Nous, ce sont des questions qu'on pose dans nos enquêtes au CVPOF, et on voit que les gens adhèrent profondément à l'idée du travail. On n'est pas du tout un pays où les gens ont envie de ne pas travailler, pas du tout. Mais par contre, ils considèrent que les récompenses ne sont pas au rendez-vous. Qu'on ne rétribue pas assez les efforts qu'ils ont faits, le mérite qu'ils ont eu dans la vie, et qu'à un moment donné, effectivement, on est rattrapé par tout un tas de variables, un secteur professionnel qui a des coûts qui ne lui permettent pas d'augmenter fortement les salaires, un âge où on dit, il faut penser aux plus jeunes maintenant. Voilà, il y a tout un tas de problèmes comme ça, et on a ce sentiment dominant qui est, on n'est pas récompensé.